Chapitre 2. Les vacances de Noël. Le beau vieux Noël, avec ses cheveux blancs de neige et sa figure joyeuse, avait accompli son devoir cette année de la manière la plus noble, en remplissant la maison d'une chaleur et d'une gaieté qui contrastaient vivement avec la neige et la gelée du dehors. La neige s'étendait sur les champs et sur les bords de la rivière, en ondulations plus souples que les membres d'un enfant. Elle formait la bordure la plus délicate sur la pente des toits, faisant ressortir la teinte rouge de chaque pignon avec plus de vigueur. Elle pesait lourdement sur les lauriers et les sapins, jusqu'à ce qu'elle en tombât avec un bruyant frémissement. Elle revêtait d'un blanc linceul le champ raboteux de navets et faisait ressembler les brebis à des taches foncées. Au dehors, les portes étaient toutes bloquées d'amas en talus. Et çà et là, quelques quadrupèdes en liberté se tenaient comme pétrifiés dans une mélancolie sans repos. Il n'y avait ni rayons lumineux ni ombre, car le ciel aussi n'était qu'un seul nuage calme et pâle. Il n'y avait de bruit et de mouvement que ceux de la sombre rivière qui coulait et se lamentait dans une continuelle tristesse. Mais le vieux Noël souriait en donnant au monde extérieur cette morne apparence. Car il comptait faire briller l'intérieur des maisons d'une nouvelle clarté, renforcer la richesse des couleurs du logis et rehausser le plaisir par le chaud parfum des mets. Il voulait faire de cet agréable emprisonnement un moyen de resserrer les liens de famille et faire briller les figures humaines de rayons aussi bienvenus qu'auraient pu l'être ceux de l'astre du jour. Sa bienveillance atteignait bien peu le malheureux délaissé. Les maisons où le foyer n'avait que peu de chaleur et la nourriture peu de saveur, et où les visages humains n'offraient que le regard plombé et fixe du besoin sans espérance. Cependant, la divinité de la belle vieille fête avait de bonnes intentions, et si elle ne possédait pas encore le secret de dispenser le bonheur terrestre avec impartialité, c'est que son père, le temps, toujours fidèle au but qu'il poursuit, cache encore ce secret dans les replis de son vaste cœur aux lents battements. Cependant, en ce beau jour de Noël, malgré ce nouveau bonheur de se trouver à la maison, Tom ne fut pas aussi complètement heureux qu'il l'avait toujours été auparavant. Et pourtant les baies rouges étaient aussi abondantes sur le houx. Lui et Maggie en avaient orné la veille toutes les fenêtres, les manteaux de cheminée et les cadres des tableaux, avec autant de goût que jamais, en mélangeant aux épais bouquets écarlates les branches de lierre aux baies noires. Il y avait eu les mêmes chants après minuit, chants que Maggie croyait toujours surnaturels, malgré l'assurance dénigrante de Tom, qui persévérait à dire que les chanteurs étaient le vieux Patch, le clerc de la paroisse, et le reste du chœur de l'église. Maggie tremblait de crainte religieuse quand ces chants venaient interrompre ses rêves, et cette image d'homme revêtu de grossiers vêtements était toujours rejetée pour faire place à celle d'ange porté par des nuages fuyants. Ces chants de la nuit avaient contribué, comme toujours, à distinguer cette matinée des autres. Puis il y avait l'odeur du pain rôti et de la bière, émanant de la cuisine à l'heure du déjeuner. L'antienne habituelle, les verts branchages et le service religieux donnaient surtout à cette fête un caractère approprié à ce grand jour. L'oncle et la tante Moss, venus avec leurs 7 enfants, semblaient autant de réflecteurs d'un feu brillant. Lorsque, de retour de l'église, après avoir secoué la neige attachée aux souliers, on les trouva au salon. Le plum pudding était tout aussi beau et aussi rond que jamais, et arrivait entouré de ses symboliques flammes bleues, comme si on l'avait courageusement arraché à l'enfer où l'auraient plongé les rigoristes puritains. Le dessert était aussi magnifique que jamais, avec ses oranges dorées, ses noix brunes, ses gelées cristallines de pommes et de coings. À tous ses égards, Noël était ce que Tom l'avait toujours vu. Si quelque chose le distinguait, c'était sa supériorité quant aux glissades et aux boules de neige. Oui, Noël était gai, mais M. Taliaferro ne l'était pas. Il se montrait irritable et contredisant. Et Tom, quoiqu'il épousât volontiers les querelles de son père et partageât ses sentiments injustes, ressentit un peu du chagrin qui oppressait Maggie. Lorsque M. Taliaferro devint de plus en plus bruyant et colère dans ses discours au moment du dessert. L'attention que Tom aurait pu concentrer sur ses noix et sur son vin se trouva distraite par la pensée qu'il y a dans le monde des ennemis fripons, et que les affaires de la vie peuvent difficilement s'arranger sans beaucoup de discussion. Tom n'aimait pas les disputes, à moins qu'il ne pût promptement y mettre fin par un combat loyal avec un adversaire qu'il avait toute chance d'anéantir. Et les discours violents de son père le mettaient mal à l'aise, quoiqu'il n'eût en rien l'idée que son père pût avoir quelque tort. La colère actuelle de M. Tallevin était surtout excitée par un M. Pivard. Celui-ci, ayant des terres plus haut sur la Ripple, prenait des mesures d'irrigation qui étaient, ou qui seraient, ou devaient être, d'après le principe que l'eau est de l'eau, une atteinte aux droits légitimes de M. Tallevin sur la force motrice de ce courant. Dix, qui possédait aussi un moulin sur ce même cours d'eau, n'était qu'un faible auxiliaire du vieux Harry comparé à M. Pivard. Dix avait été ramené au bon sens par un arbitrage, et les conseils même de Wakeham ne l'avaient pas mené trop loin. M. Tallevin trouvait même que Dix s'était conduit aussi bien que possible au point de vue légal. Et dans la force de son indignation contre Pivard, son dédain pour Dix, cet adversaire défait, en vint à ressembler à un attachement amical. Il n'avait point d'autre auditeur masculin ce jour-là que M. Moss, qui, disait-il, ne connaissait rien à la direction du moulin, et ne pouvait admettre les arguments de M. Tallevin que sur le fondement a priori de ses relations de famille et de ses obligations pécuniaires. Mais M. Tallevin ne parlait pas dans l'intention futile de convaincre ses auditeurs. Il parlait pour se soulager lui-même, tandis que le bon M. Moss faisait de violents efforts pour tenir ses yeux ouverts, malgré le sommeil provoqué par un bon dîner, chose rare pour lui, et à la suite de beaucoup de fatigue. Madame Moss, comprenant mieux le sujet et s'intéressant à tout ce qui affectait son frère, l'écoutait et plaçait son mot aussi souvent que le permettaient ses préoccupations maternelles. « Mais Pivard est un nom nouveau par ici, n'est-ce pas, frère ? Il ne possédait pas ce terrain du temps de notre père, ni de ton temps non plus, avant que je fusse marié. » « Un nom nouveau, oui, je crois bien que c'est un nom nouveau, » dit M. Tallevin avec emphase. Le moulin de Dorlcote a été dans notre famille une centaine d'années et plus, et personne n'a jamais entendu dire qu'un Pivard se mêlât de la rivière, jusqu'à ce que cet individu soit venu acheter du propriétaire même la ferme de Bencombe, avant que personne pût seulement dire crac. « Mais je le pivarterai, » ajouta M. Tallevin, en levant son verre avec le sentiment d'avoir exprimé sa résolution d'une manière à ne pas s'y méprendre. « Tu ne seras pas forcé d'aller en justice contre lui, j'espère, frère, » dit Madame Moss avec quelque inquiétude. « Je ne sais pas ce que je serai forcé de faire, mais je sais à quoi je le forcerai avec ses digues et ses irrigations, s'il existe quelque loi qui puisse protéger le bon droit. Je sais bien ce qu'il y a au fond de tout ça. Il a Wakeham pour le soutenir et l'encourager. » Je sais que Wakeham lui dit que la loi ne peut rien pour ça. Mais il y a d'autres gens qui savent la manier aussi bien que Wakeham, la loi. Il faut un habile coquin pour le battre, c'est vrai. Mais on peut en trouver un, aussi fameux que lui, qui connaisse tous les tours et détours de la loi. Autrement, comment aurait-il perdu le procès de Bromley ? M. Tallevin était un homme strictement honnête et fier de l'être. Mais il considérait que, devant la loi, le but de la justice ne pouvait être atteint qu'en employant un plus fort coquin pour en battre un plus faible. La loi, selon lui, était une espèce de combat de coq, dans lequel l'affaire de l'honnêteté opprimée était de se procurer l'oiseau de combat le plus courageux et le mieux éperonné que possible. « Gore n'est pas un imbécile. Vous n'avez pas besoin de me le dire, » observa-t-il bientôt d'un air batailleur, comme si la pauvre Gritty avait vanté les capacités de ce procureur. « Mais vois-tu, il n'est pas au fait des lois comme les Wakeham. Et l'eau est une chose particulière. On ne peut pas en piquer avec une fourche. Voilà pourquoi ce n'a été qu'une bagatelle pour le vieux Harry et les hommes de loi. Les bons et les mauvais côtés de l'eau sont assez clairs, si l'on veut y regarder franchement. Car une rivière est une rivière, et si vous avez un moulin, il vous faut de l'eau pour le faire tourner. Et ça ne signifie rien de me dire que l'irrigation et les bêtises de Pivard n'arrêteront pas ma roue. Je connais mieux que ça ce qui a rapport à l'eau. Parlez-moi vraiment de ce que disent ces ingénieurs. Le sens commun montre que les digues de Pivard me feront du tort. Mais si c'est là leur manière de voir, aux ingénieurs, je mettrai bientôt Tom à ça, et il verra s'il ne peut pas trouver un peu plus de bon sens dans cette affaire de digue que ce qu'elle a produit jusqu'à présent. Tom, à l'ouïe de ce qu'on attendait peut-être de lui, devint inquiet, et retira sans y faire attention une petite crécelle avec laquelle il amusait bébé Moss. L'enfant exprima instantanément sa colère par des cris perçants, et ne put être apaisé même lorsqu'on lui rendit la crécelle, le tort de la lui avoir ôtée subsistant pour elle dans toute sa force. Madame Moss s'empressa de l'emporter dans une autre chambre et exprima à Madame Taleva, qui la suivit, sa conviction que cette chère enfant avait de bonnes raisons pour crier, indépendamment de la crécelle qu'on lui avait ôtée. Ses cris justifiés étant tout à fait apaisés, Madame Moss dit en regardant sa belle-sœur « Je suis fâchée de voir mon frère si exaspéré au sujet de cette eau. » « C'est la manière de votre frère, Madame Moss. Je n'ai jamais rien vu de ce genre avant mon mariage, » dit Madame Taleva, en sous-entendant à moitié un reproche. Elle disait toujours « votre frère » en parlant de son mari à Madame Moss dans les occasions où la ligne de conduite de Monsieur Taleva n'était pas un sujet de pure admiration. L'aimable Madame Taleva, qui n'était jamais en colère, avait cependant sa douce part du caractère sans lequel elle aurait à peine pu être une femme et surtout une Dodson. Étant toujours sur la défensive vis-à-vis de ses sœurs, il était naturel qu'elle eût un vif sentiment de sa supériorité, même comme la plus faible des Dodson, sur une sœur de son mari, qui, outre qu'elle était pauvre et portée à se reposer et à compter sur son frère, avait la soumission d'une femme prolifique, d'un caractère facile, et ayant de l'affection non seulement pour son mari et ses nombreux enfants, mais pour ses nombreuses relations collatérales. J'espère et je prie Dieu qu'il ne s'adresse pas à la justice, dit Madame Moss, car on ne peut jamais savoir où cela peut conduire. Et celui qui a raison ne gagne pas toujours. Ce monsieur Pivard est un homme riche, à ce que je puis comprendre, et les riches, pour la plupart, font tourner les choses à leur convenance. Quant à cela, dit Madame Taleva, en rabattant les plis de sa robe, j'ai vu, par ma propre famille, ce que sont les riches. Car mes sœurs ont des maris qui peuvent joliment bien leur procurer tout ce qu'elles désirent. Mais je crois quelquefois que ma tête n'y tiendra plus, avec tous ces discours sur ces lois et cette irrigation. Mes sœurs m'en rejettent toute la faute, car elles ne savent pas ce que c'est que d'être mariées à un homme comme votre frère. Et comment le sauraient-elles? Ma sœur Paulette agite à sa guise du matin au soir. Eh bien, dit Madame Moss, je crois que j'aimerais moins mon mari s'il n'avait pas quelques idées à lui et que je dusse avoir de la tête à sa place. Il est bien plus facile d'obéir que de se tourmenter pour savoir ce que l'on doit faire. Si les gens viennent à parler de faire ce qui plaît à leur mari, dit Madame Taleva, en légère imitation de sa sœur Glegg, je suis sûr que votre frère aurait pu attendre longtemps avant de trouver une femme qui le laissait agir à sa tête en toutes choses, comme je le fais. Ce n'est que loi et irrigation maintenant, depuis le moment où nous nous levons le matin jusqu'à celui où nous nous couchons le soir. Et je ne le contredis jamais. Je lui dis seulement, « Bien, monsieur Taleva, faites comme vous voudrez. Seulement, quoi que vous fassiez, n'allez pas à la justice. » Madame Taleva, comme nous l'avons vu, n'était pas sans influence sur son mari. Aucune femme ne l'est. Elle peut toujours le disposer à faire ce qu'elle désire, ou le contraire. Dans les motifs multiples qui menaçaient de pousser M. Taleva à la justice, la monotone plaidoirie de Mme Taleva avait sans aucun doute sa part d'action. On pouvait même la comparer à cette plume proverbiale qui peut briser le dos du chameau. Quoique, si l'on y regarde impartialement, le tort doit plutôt incomber au fardeau antérieur qui a déjà exposé ce dos à un tel péril qu'à la plume supplémentaire, qui n'a pu y être ajoutée sans accident. Ce n'est point que la faible intervention de Madame Taleva pût même avoir le poids de cette plume en raison de sa propre personnalité, mais chaque fois qu'elle n'applaudissait pas entièrement à son mari, il voyait en elle la représentante de la famille Dodson, et c'était une règle de conduite chez lui que de faire savoir aux Dodson qu'elle ne le dominerait pas, ou plus spécialement, qu'un Taleva mâle valait beaucoup plus que quatre Dodson femelles, même quand l'une d'elles était Madame Glegg. Mais tout cela n'avait pas autant de valeur pour le pousser à s'adresser à la loi que la simple pensée de Wakeham, continuellement ravivé par la rencontre, les jours de marché, de ce trop habile procureur. Wakeham, à la connaissance certaine de M. Taleva, était, pour parler métaphoriquement, au fond de l'irrigation de Pivert. Wakeham avait essayé de pousser Dix en avant. C'était indubitablement Wakeham qui avait fait perdre à M. Taleva son procès au sujet de son droit sur le champ et le pont, faisant ainsi de son terrain un passage public pour tout vagabond qui préférerait gâter une propriété particulière plutôt que de marcher tranquillement comme un honnête homme le long de la grande route. Tous les procureurs étaient, à ses yeux, plus ou moins fripons, mais la friponnerie de Wakeham était de l'espèce particulière qui contrariait les justes intérêts et opinions de M. Taleva. Et pour ajouter une goutte d'amertume de plus, le meunier lésé avait récemment, en empruntant les 500 livres, été obligé de traiter pour son propre compte une petite affaire dans l'étude de Wakeham, chez cet individu rusé au nez crochu, aussi froid qu'un concombre, paraissant toujours si sûr de son jeu. C'était vexant que le procureur Gore ne lui ressemblât pas davantage, au lieu d'être un homme chauve, aux traits arrondis, aux manières polies et aux mains grasses, espèce de coq de combat, en faveur duquel il eût fallu être fou pour parier contre Wakeham. Gore était bien aussi un rusé gaillard, la délicatesse n'étant pas son côté faible. Mais quoi que l'on puisse mieux voir en clignant les yeux, cela ne suffit pas pour voir à travers un mur. Et quelque confiance que M. Taleva eût en son principe, que l'eau est de l'eau, et qu'en conséquence Pivert n'avait pas un point pour s'appuyer dans cette affaire d'irrigation, il avait le soupçon inquiétant que Wakeham aurait plus d'articles de loi à montrer contre cette conséquence rationnellement incontestable que Gore n'en pourrait produire pour. Mais aussi, s'ils allaient en justice, M. Taleva aurait la chance d'employer pour lui l'avocat Wilde, cet admirable jouteur, au lieu de l'avoir contre lui. Et l'espoir de voir qu'un témoin de Wakeham serait malmené et confondu, comme l'avait été une fois l'un des siens, était très attrayant pour M. Taleva, vu son amour pour la justice rétributive. Il rumina beaucoup ces sujets compliqués pendant ses courses à cheval, penchant la tête à droite ou à gauche, suivant que les balances montaient ou descendaient. Mais le résultat probable était toujours hors de vue et ne pouvait se prévoir que par beaucoup de raisonnements répétés dans la vie domestique et sociale. Cette première période de la dispute, qui consistait dans le récit de l'affaire et de la manière de voir toujours plus prononcée de M. Taleva, répétée au cercle entier de ses connaissances, dut nécessairement prendre du temps. Et au commencement de février, lorsque Tom retourna à sa pension, il y avait à peine quelques nouveaux arguments dans le récit que son père faisait du cas contre Pivert, ou quelques indications plus spéciales des mesures qu'il était décidé à prendre contre cet enragé contrevenant au principe que l'eau est de l'eau. La répétition des mêmes idées, comme le frottement, produit probablement de la chaleur comme le mouvement, et l'échauffement de M. Taleva était de plus en plus sensible. S'il n'y avait point de nouvelles preuves sur quelques autres points, il y avait la preuve récente que Pivert était aussi entortillé que possible par Wakeham. « Père, dit un soir Tom, vers la fin des vacances, l'oncle Glegg dit que le procureur Wakeham va envoyer son fils chez M. Stelling. Ce n'est donc pas vrai ce qu'on disait qu'il allait en France. Vous n'avez pas envie que je sois en pension avec le fils de Wakeham, n'est-ce pas ?»« Cela ne fait rien, mon garçon, dit M. Taleva. N'apprends rien de mauvais de lui, voilà tout. Ce garçon est une pauvre créature contrefaite qui, pour le visage, ressemble à sa mère. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de son père en lui. » Cela prouve que Wakeham a une haute idée de M. Stelling, puisqu'il lui envoie son fils, car Wakeham sait distinguer la farine du son. M. Taleva était intérieurement fier de ce que son fils eut les mêmes avantages d'instruction que celui de Wakeham. Mais Tom n'était point à l'aise sur ce point. La chose eût été beaucoup plus claire pour lui si le fils du procureur n'avait pas été faible et contrefait, parce qu'alors Tom aurait eu la perspective de le boxer avec toute l'approbation de sa conscience.